mardi 4 octobre, il est 16h, on a 14 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. Bienvenue dans Le Débrief, c'est parti pour un nouveau 60 minutes d'infos à l'antenne de CILS FM 107,9. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne jusqu'à 17h. On commence illico avec les bulletins de Denis Lépine. On reprend de l'autre côté dans 4 minutes avec la météo détaillée. Ce sera suivi par les infos des Nations Unies. En interview aujourd'hui, vers 16h45, je retrouve l'artiste de Victoria, Nathalie Leduc, qui vient compléter, avec une lecture de poèmes, le récit du festival Burning Man qu'elle nous avait livré il y a une quinzaine de jours. Bonne émission à tous! La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Les membres de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale sont à Ottawa toute la semaine dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Et Lisa Crowley, coprésidente de l'association, a dit que les niveaux de financement du Canada sont presque au bas du classement parmi les pays de l'OCDE. Selon elle, le plus grand défi des Canadiens avec des problèmes de santé mentale est l'accès aux soins en temps opportun. L'association doit présenter d'ici samedi son document politique sur la santé intitulé « Santé mentale, que ça bouge ». L'Association canadienne des médecins d'urgence vient de publier une liste d'examens, d'interventions et de traitements couramment prescrits, mais qui ne sont pas toujours nécessaires en médecine d'urgence. La docteure Amy Chang, coprésidente du groupe de travail de l'association, a dit que les recommandations fournissent des données valables pour aider les patients et les médecins à faire des choix éclairés en matière de santé. Parmi ces recommandations, il est suggéré de mettre fin à la prescription d'antibiotiques aux adultes et aux enfants atteints de maux de gorge sans complications. Ottawa vient d'annoncer que la Bourse d'études supérieures du Canada Vanier comptera dorénavant 166 nouveaux récipiendaires et 70 étudiants ont été ajoutés à la liste de bourses postdoctorales Banting. Le gouvernement fédéral a précisé que les bourses au doctorat et au postdoctorat témoignent de son engagement à investir 34 700 000 $ pour attirer et retenir les meilleurs jeunes étudiants. Le docteur Alain Baudet, président des Instituts de recherche en santé du Canada, a dit que grâce à ces programmes, le gouvernement soutient l'émergence de la nouvelle génération de chercheurs canadiens. Les discussions à la mission du parc national Wood Buffalo en Alberta se terminent aujourd'hui. Des experts internationaux en provenance du Centre de patrimoine mondial de l'UNESCO et de l'Union internationale sur la conservation de la nature discutent de l'environnement. Catherine McKenna, ministre responsable de Parc Canada, a rappelé que le gouvernement du Canada est déterminé à préserver les parcs nationaux, dont certains sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les échanges se poursuivent à Ottawa concernant la ratification de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, n'a pas perdu temps. Il a annoncé ses couleurs. Il a dit en chambre qu'il allait imposer une taxe carbone de 10 $ la tonne pour les provinces qui n'auront pas mis en place une réglementation tarifaire du carbone à compter de 2018. Justin Trudeau a déclaré qu'après des décennies d'inaction, nous allons finalement prendre des mesures concrètes et réelles pour bâtir une économie propre. Politique américaine, c'est ce soir qu'aura lieu le débat à la vice-présidence. Le gouverneur de l'Indiana, le républicain Mike Pence, et le sénateur de la Virginie, le démocrate Tim Kaine, vont s'affronter. L'événement est prévu à l'université Longwood à Farmville, en Virginie. Le débat permettra aux gens de savoir si les deux hommes pourront prendre la relève du président si la situation le demande. Et comme lors des débats à la présidence, eh bien l'événement de ce soir verra les deux candidats se prononcer sur des sujets tels que l'emploi, la santé, les vétérans et les affaires étrangères. Autre dur coup pour Donald Trump, la justice de l'État de New York a ordonné à la fondation Donald Trump de cesser de recueillir des dons. Publiée par l'agence France Presse, une lettre du procureur de l'État de New York révèle que la fondation n'a pas été enregistrée adéquatement. La controverse entourant la fondation planait autour de celle-ci depuis déjà plusieurs semaines. Stéphane Dion rencontre la vice-présidente de l'Argentine, Gabriela Michetti, aujourd'hui à Ottawa. Le ministre des Affaires étrangères et la vice-présidente doivent s'entretenir notamment du commerce et de l'investissement. Ils détermineront aussi des possibilités de collaboration accrue dans divers domaines, entre autres les changements climatiques, l'énergie renouvelable, la culture, les droits de la personne et les opérations de paix. Au sport, au baseball majeur, eh bien, match des meilleurs deuxièmes ce soir dans la Ligue américaine. Les Orioles de Baltimore seront à Toronto pour affronter les Blue Jays. Le match des meilleurs deuxièmes dans la nationale aura lieu demain entre les Giants de San Francisco et les Mets de New York. Au hockey maintenant, match pré-saison, eh bien, victoire de Winnipeg 4-2 contre Ottawa. Également des victoires notamment pour Washington, Philadelphie et les Islanders de New York. Ce soir, plusieurs rencontres. Notons entre autres que Boston sera à Montréal, Anaheim à Edmonton et Ottawa recevra Toronto. Et dans la NFL, au match du lundi soir, victoire du Minnesota 24-10 contre les Giants de New York.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief. Il est 16h05 à l'antenne de CILS FM 107,9. On se tourne vers la météo à présent. On a 15 degrés au centre-ville de Victoria présentement. C'est nuageux. On aura probablement quelques brins de pluie dans la prochaine heure. En soirée, la probabilité d'averse se situe à environ 60%. Ça va demeurer nuageux. Il y aura un petit dégagement demain, mais la pluie pourrait quand même se mettre de la partie. La probabilité d'averse demeurera à 40% avec un maximum de 15. Donc pour demain, mercredi 5 octobre. Et pour le jeudi 6 octobre, ça demeure nuageux, un maximum de 14 degrés. C'est une copie carbone, donc à l'identique le vendredi 7, nuageux 14 degrés et ça se poursuit ainsi pour tout le week-end, nous prédit Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Donc demain, on aura un petit peu de soleil, ce sera sans doute le seul moment au cours des prochains jours où le soleil va se montrer. Alors voilà pour les prochains jours. On va aller à présent au bulletin de l'ONU. On se retrouve de l'autre côté avec le nouvel provincial.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre, Ban Ki-moon exhorte l'Europe à ratifier l'accord de Paris. Réunion du Conseil de sécurité sur le Darfour, les humanitaires se mobilisent pour limiter l'impact de l'ouragan Matthew en Haïti et en dossier l'appel de Zayd au Conseil de sécurité pour mettre fin au désastre humanitaire à Alep. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, poursuit son voyage en Europe. Après Genève, il a fait ce mardi un détour par le Parlement européen qui siège actuellement à Strasbourg. Une étape qui n'était pas initialement inscrite à son programme. Devant les députés des 28 États membres de l'Union européenne, Ban Ki-moon a souligné l'importance pour l'Europe de ratifier l'accord de Paris sur le changement climatique. Jérôme Longuet.
Devant le Parlement européen, Ban Ki-moon a expliqué, chiffre à l'appui, le chemin qui reste à parcourir pour l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, 62 États ont ratifié l'accord, alors que seulement 55 étaient nécessaires. Il faut encore que les États responsables de 55% des émissions de gaz à effet de serre le fassent. Or, pour l'instant, seuls 52% l'ont fait. Aussi, grâce à l'action prise ce mardi par le Parlement européen, Ban Ki-moon s'est dit confiant que le cap de 55% d'États sera atteint d'ici quelques jours. Une confiance et une gratitude envers l'Europe réitérées devant les journalistes.
Par leur action aujourd'hui, ici, les parlementaires européens ont souligné leur attachement à la coopération internationale, qui est au cœur de l'identité de l'Union européenne. Ils ont réaffirmé leur soutien à une action urgente pour répondre au changement climatique et la transformer en une opportunité pour construire des sociétés plus sûres, plus saines et plus prospères.
À noter qu'après Strasbourg, où il a fait ses adieux au Parlement européen, Ban Ki-moon doit se rendre à Bruxelles pour assister mercredi à une conférence sur l'Afghanistan.
Le Conseil de sécurité s'est réuni ce mardi pour faire le point sur la situation au Darfour. À cette occasion, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a exhorté les parties au conflit à reprendre les négociations en vue de parvenir rapidement à un accord de cessation des hostilités. Devant les 15, Hervé Latsous a aussi signalé que l'ONU n'a pas été en mesure de vérifier les allégations d'Amnesty International sur l'utilisation d'armes chimiques dans le Jebel Mara. Le gouvernement soudanais continuant de nier à la MINUAD, l'opération hybride Union africaine-ONU au Darfour, l'accès aux zones de conflit.
La MINUAD, malheureusement, n'a pas été en mesure de confirmer ces informations parce que le gouvernement soudanais continue d'imposer des restrictions d'accès. Comme le semblent le démontrer les récents affrontements, il semble bien que les forces gouvernementales n'aient réussi que partiellement à réaliser leur objectif qui était de déloger les combattants de l'armée de libération du Soudan, Abdul Wahid, de leurs bases opérationnelles qui se concentrent sur les contreforts du Jebel Mara. La poursuite des combats ces dernières semaines est évidemment un facteur de préoccupation parce que la saison sèche est en train de s'installer et que la saison sèche est en général la période la plus propice à des opérations militaires d'une certaine ampleur.
Alors que l'ouragan Matthew de Force 4 s'abat sur les côtes sud d'Haïti, les humanitaires se tiennent prêts à porter assistance aux populations. Pour l'instant, c'est le sud du pays qui suscite le plus d'inquiétudes. La mission de l'ONU sur place a déployé des unités de génie pour aider à débloquer les routes une fois le cyclone passé. De son côté, le programme alimentaire, au-delà d'une aide alimentaire d'urgence, est chargé d'apporter un appui logistique aux autres humanitaires. Comme l'explique son directeur intérim en Haïti, joint ce matin à Port-au-Prince, Carlos Veloso.
On a une équipe prête à partir pour le sud dès que les conditions améliorent, on espère demain après-midi. Des magasins Mobile Storage Unit sont déjà prêts à venir de notre grand dépôt à Gonaïve pour aller vers le sud. On a ici aussi déjà prêt à partir et équipement de télécommunications. Et il y a une équipe de à peu près 7 personnes de toutes les parties du monde en train de s'assembler au Panama, très expérimentée dans la situation d'émergence. Mais aussi, en ce moment, un avion transporte 30 tonnes de biscuits de haute valeur nutritionnelle de Dubaï vers Miami. Comme ça, on peut les envoyer en Haïti, on peut les envoyer à Cuba.
À l'heure actuelle, près de 385 millions d'enfants vivent dans une situation de pauvreté extrême, c'est-à-dire dans des ménages qui survivent avec moins de 1,90 $ par jour. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'UNICEF et de la Banque mondiale qui appelle les gouvernements à l'action. Les précisions de Martin Evans, fonctionnaire à l'UNICEF.
Dans les pays en développement, les enfants représentent environ un tiers de la population, mais la moitié des personnes vivant dans la pauvreté extrême. Un des handicaps auxquels les enfants font face est que leur mère ne peut pas avoir une activité économique car elle doit s'occuper de jeunes enfants. Donc, fournir une protection sociale aux familles avec de jeunes enfants sera un élément important de la réduction de la pauvreté infantile. Les gouvernements doivent aussi veiller à ce que les ménages les plus pauvres reçoivent certains des bénéfices de la croissance économique de leur pays, que les populations pauvres aient accès à des emplois, que la productivité agricole augmente dans les zones rurales et à la création de bonnes politiques fiscales pour orienter les services et les transferts aux enfants.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
En Syrie, les frappes sur les quartiers est d'Alep, actuellement tenus par les rebelles, ont fait 342 morts, dont 106 enfants. L'OMS recense également plus de 1100 blessés, dont 261 enfants. Il reste moins de 30 médecins dans l'est de la ville et seuls 6 hôpitaux partiellement opérationnels demeurent en service. Face à cette tragédie, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zaid Raad al-Hussein, réclame des initiatives nouvelles et audacieuses pour mettre fin à un véritable désastre humanitaire. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a contacté Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
On a bien vu ces dernières semaines que les négociations qui ont eu lieu au Conseil de sécurité n'ont abouti à rien, qu'il y avait énormément de tensions, mais qu'au final, très peu de choses concrètes avaient eu lieu. Et donc, une des suggestions et des initiatives récentes qui ont été faites, c'était de proposer que le Conseil de sécurité se dote de critères pour empêcher ses membres d'utiliser leur veto lorsqu'il y a des préoccupations graves quant à de possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela permettrait au Conseil de renvoyer la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale. Cela fait des années maintenant que le haut-commissaire demande ce renvoi devant la Cour pénale internationale. Il est essentiel parce qu'il y règne en Syrie à l'heure actuelle une impunité profondément choquante et des crimes d'une ampleur catastrophique dont certains pourraient constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Et quand le haut-commissaire Zaid demande une limite du veto au Conseil de sécurité, et quelque part ce message est adressé à qui? À la Russie, à tous les membres?
Mais il est adressé à l'ensemble des acteurs du conflit syrien et ils sont nombreux. Pour leur rappeler que le droit international humanitaire a été mis en place par la communauté internationale, qu'il ne s'agit pas de droits superflus, qu'il s'agit de droits fondamentaux, créés pour préserver une parcelle même infime d'humanité dans la conduite des hostilités. Or, ce que nous voyons depuis la nouvelle offensive contre les quartiers tenus par l'opposition dans l'Est d'Alep, par le gouvernement syrien et ses alliés, c'est un déluge de destruction et de mort.
Et comment le haut-commissaire juge les dernières opérations aussi bien de l'armée syrienne que de ses alliés russes? Est-ce que ces opérations pourraient constituer des crimes de guerre?
C'est une situation profondément tragique. On parle de centaines de civils tués, dont au moins 100 enfants depuis le 21 septembre. Et il faut donc effectivement des mesures extraordinaires et il faut rappeler à toutes les parties en présence que le droit international humanitaire est obligatoire, que toutes les parties au conflit doivent le respecter en tout temps, en toutes circonstances, et en particulier les principes fondamentaux de distinction, de proportionnalité et de précaution.
Que reprochez-vous au groupe d'opposition par rapport à ces crimes de guerre ou bien ces exactions qu'ils pourraient commettre sur place, sur le terrain?
Les groupes armés d'opposition ont recours à une arme appelée le canon de l'enfer, un mortier, souvent de fabrication artisanale, et qui tire des bonbonnes de gaz qui contiennent des explosifs et des fragments. Ce que l'on sait de cette arme, c'est qu'elle est très imprécise et que donc elle amène à des attaques indiscriminées dans les zones qui sont sous contrôle gouvernemental. Du fait de cette imprécision, on ne peut tirer aucun avantage militaire de cette arme. Et donc, ce que nous en concluons, c'est que le but premier de cette arme, c'est de terroriser les habitants de l'ouest d'Alep. Si ces attaques indiscriminées sont prouvées comme étant intentionnelles, elles pourraient constituer des crimes de guerre. Et si, en plus, elles sont commises dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, elles pourraient aussi constituer des crimes contre l'humanité.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
L'info se poursuit dans le débrief à l'antenne de CILS FM 107.9. On a 16h17 au cadran. On va continuer avec les nouvelles provinciales. Un article paru sur Radio-Canada International a attiré notre attention. On remarque, on constate que le Canada imite en quelque sorte une mesure prise par la Colombie-Britannique. Donc c'est une mesure qui sera mise en vigueur à l'échelle du pays. Le titre, crise nationale des opioïdes, le Canada approuve la distribution sans ordonnance du vaporisateur qui redonne vie. Tous les Canadiens ont désormais accès en vente libre dans les pharmacies à de la naloxone sous forme de vaporisateur nasal et ce, sans ordonnance. La ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, qui en a fait l'annonce hier lundi, s'attend à ce que cette mesure sauve des dizaines de vies au cours des prochains mois. Cette mesure était réclamée depuis plusieurs mois par les responsables des services d'urgence, notamment les policiers et les ambulanciers, mais aussi par de simples parents ou amis de jeunes toxicomanes. L'analoxone, qui a déjà fait ses preuves de façon brillante dans une série de projets pilotes provinciaux, notamment en Colombie-Britannique, a la qualité de pouvoir neutraliser une surdose d'opioïdes de manière temporaire, soit de 15 à 30 minutes. Cela laisse plus de temps aux professionnels des urgences pour tenter de sauver de la mort les victimes d'une surdose. L'opioïde fentanyl est la drogue la plus dangereuse que le Canada ait jamais eu à combattre. Le nombre de surdoses d'opioïdes et de décès va en augmentant partout au Canada, a affirmé la ministre Philpott dans un communiqué. Cette crise exige que nous passions à l'action dès maintenant, afin de fournir à des Canadiens et des Canadiennes des traitements dont ils ont grand besoin. Il y a 2 ans, l'épicentre de la crise des opioïdes semblait se situer surtout dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, où l'on rapportait le plus grand nombre de décès, mais cette crise se transporte maintenant vers l'est du pays. Plus tôt ce printemps, le service de police de la ville de Québec a réalisé une saisie historique de plus de 76 000 comprimés de fentanyl. Je vous parle à présent de la crise immobilière qui sévit en Colombie-Britannique. Un article du portail de CBC nous renseigne à ce sujet aujourd'hui. on apprend que les ventes sont en baisse dans la grande région de Vancouver. On a observé une baisse de près de 10% des ventes pour le mois de septembre. Donc ce sont seulement 2253 résidences qui ont été vendues en septembre. C'est une baisse importante, donc de 10% par rapport au mois d'août, le mois précédent, et c'est une baisse de 32,6% par rapport au mois de septembre de l'année dernière, 2015. Et bien sûr, cet article qui est très informatif, il se situe sur le portail de CBC. L'article mentionne bien sûr que les raisons de cette baisse des ventes, c'est la taxe imposée aux acheteurs étrangers, une taxe de 15% qui a été introduite début août afin de calmer le jeu, afin d'empêcher la surchauffe du marché immobilier dans la grande région de Vancouver. Donc cette baisse des ventes toutefois n'a pas eu d'effet sur les prix, du moins pour le moment, indique cet article paru sur le portail de CBC. Je vous parle à présent, toujours dans la région de Vancouver, de la commission scolaire de Vancouver, la VSB. On a dans cette commission renoncé par vote au projet de fermer 11 écoles pendant que l'Agence de la santé et de la sécurité au travail WorkSafe BC enquête sur des allégations selon lesquelles l'environnement de travail au sein de la commission scolaire serait toxique. WorkSafe BC enquête actuellement sur les allégations selon lesquelles l'environnement serait toxique à la commission scolaire de Vancouver, à la demande du ministre de l'Éducation, Mike Bernier. Ce dernier a récemment déclaré avoir reçu une lettre de l'Association des directions d'école dénonçant l'environnement de travail à la commission scolaire de Vancouver. Dans une déclaration, le ministre Bernier a plus tard expliqué avoir soumis le dossier à WorkSafe BC parce que cette agence est compétente pour enquêter en matière d'intimidation et de harcèlement au travail. Confrontée à un déficit, la commission scolaire de Vancouver envisageait plutôt cette année de fermer 11 écoles. Elle prévoyait de tenir des consultations pour déterminer lesquelles de ces écoles devaient cesser leurs activités à la fin de l'année scolaire. Donc, ce projet a été mis sur la glace, tandis que WorkSafe BC continue d'enquêter sur les allégations de harcèlement et d'intimidation. Un nouveau naufrage pour Jamie's Whaling Station du côté de Tofino, un bateau d'observation de la faune avec une vingtaine de passagers à bord s'est échoué au large de Tofino dans l'île de Vancouver samedi soir sans faire de victimes. L'embarcation appartient à l'entreprise Jamie's Whaling Station, propriétaire du Léviathan 2 qui avait chaviré en octobre 2015 tuant 6 personnes. Donc cette embarcation qui a chaviré samedi s'appelle le Stellar. Elle était à proximité du rivage pour permettre une bonne vue pour observer les ours. Donc c'est des touristes, vous l'aurez compris, qui prenaient place à bord de cette embarcation. Le bateau a percuté un rocher à faible vitesse et en eau peu profonde. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada confirme avoir été rapidement avisé. Le BST, qui enquête toujours sur la tragédie du Léviathan, donc survenue l'année dernière, je vous le disais, a donc ouvert une deuxième enquête, cette fois sur cet incident survenu à bord du Stellar. On envoie une équipe sur les lieux mardi pour commencer à chercher des renseignements et évaluer la situation, a confirmé un porte-parole du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Donc les enquêteurs sont déjà sur place. La garde côtière a sécurisé l'épave pour empêcher le carburant de se répandre dans l'eau. Les autorités affirment qu'il n'y a pas eu de fuite de polluants. Et le Bureau de la sécurité des transports, quant à lui, continue son enquête. Le rapport sur le Léviathan 2 doit être publié en début d'année 2017. Je termine avec un article qui a attiré mon attention dans le portail infopresse.com. Peut-être connaissez-vous les chocolats favoris. C'est une entreprise qui a maintenant pignon sur rue à Victoria. C'est une boutique de chocolat fin et de crème glacée qui s'est installée sur Government au centre-ville, non loin du quartier touristique du Parlement. Elle est très populaire déjà, cette boutique. Et InfoPresse consacre un portrait à cette entreprise qui est fondée par un Québécois originaire de Lévis. Donc l'entreprise est basée à Lévis. C'est une entreprise qui a près de 30 ans et on explique un petit peu le cheminement de cette entreprise qui a été reprise par l'entrepreneur Dominique Brown. Donc c'est un beau portrait d'entreprise, de PME. On dit dans cet article que cette PME est vraiment promise à un succès important à l'échelle internationale. C'est une entreprise qui est en pleine expansion. Donc, Chocolat Favori, vous reconnaîtrez tout de suite le nom si vous avez passé sur Government, si vous êtes passé sur Government récemment et que vous y êtes entré. Donc, une boutique qui a des origines québécoises et qui déjà est très populaire ici à Victoria. On s'arrête quelques instants en musique. On va écouter l'artiste Fred Fortin, une pièce très récente qui s'intitule Oiseau, et on se retrouve pour les nouvelles du jour de l'autre côté.
J'écoutais le chant des oiseaux. Je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, devant moi qui n'a pas d'aile? T'as pas l'air de me trouver bien beau, j'ai pas de plume, juste un peu de poil. Seulement semblant voyager, j'écoutais le chant.
tu sais pas chanter. Il y a quelque chose qui me marche, je sais pas si je devrais te dire. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai voulu fabriquer des ailes. J'ai sauté de mon toit pour aussitôt atterrir. C'est tout naturel, j'ai pas plume, juste un peu de poil.
Oiseau, excellente pièce de Fred Fortin dans le débrief 16h30 à l'antenne de CILS. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 5 octobre, bienvenue dans l'émission. C'est Alexis Gagnon qui vous accompagne jusqu'à 17h. On passe aux nouvelles du jour. Maintenant, on va faire un saut du côté de l'international. On parle du référendum qui s'est tenu en Colombie et qui a produit des résultats assez étonnants. Je vous lis quelques passages d'un article paru dans le portail Mediapart.fr. Colombie, le rejet de l'accord avec les FARC plonge le pays dans une crise inédite. Contre toute attente, les Colombiens ont rejeté dimanche, par une très courte majorité, l'accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement, mettant fin à un demi-siècle de guerre civile. Farouche opposant à cet accord, l'ancien président Uribe est parvenu à bloquer le processus et semble le premier surpris de cette victoire. Les FARC annoncent vouloir poursuivre l'effort de paix. Bogota, donc c'est une correspondance de Bogota, Pascal Mariani écrit dans Mediapart. Personne ne l'avait envisagé, pas même les partisans du non, c'est-à-dire les partisans du rejet de l'accord de paix passé entre les FARC et le gouvernement. Et pourtant, c'est le non qui l'a emporté dimanche 2 octobre avec 50,2% des suffrages. Le scrutin a été marqué par une abstention de 63%, la plus forte enregistrée en Colombie depuis 1994. Ce qui devait être un plébiscite pour rassembler les Colombiens autour d'une paix durement gagnée après 52 ans de conflit a déclenché une crise politique majeure. Au lendemain de cette victoire du non, le pays est coupé en deux en pleine incertitude. Dans le camp des partisans du oui, la frustration est énorme. Beaucoup ne pouvaient contenir leurs larmes le soir du verdict. Certains évoquent un Brexit colombien pour son résultat incompréhensible et inattendu. C'est comme si la paix tant espérée leur avait été confisquée. Ils sont peut-être victimes de l'ignorance, de la manipulation ou du mensonge, mais tous ceux qui ont voté pour le non ont la responsabilité historique d'avoir placé la Colombie au bord de l'abîme, s'est emporté Antonio Morales, qui est journaliste et partisan de l'accord de paix. Donc c'est un excellent article publié sur le portail Mediapart. Ça vous permet de vous mettre à jour sur la situation politique qui prévaut en Colombie suite au référendum qui s'est tenu, référendum qui devait avaliser la paix entre les partis opposés, FARC et gouvernement. Donc à suivre certainement au cours des prochaines semaines. On se transporte du côté du portail France24.com. On y apprend que le Pentagone étant le ministère de la Défense américain, aurait dépensé plus de 540 millions de dollars entre 2006 et 2011 dans le cadre d'une campagne de propagande en Irak. Cette campagne de propagande comprenait la réalisation de fausses vidéos djihadistes. C'est assez étonnant. Donc France 24 rapporte des informations divulguées par la presse britannique. Plus d'un demi-milliard de dollars pour de fausses vidéos djihadistes, selon les enquêteurs du Bureau of Investigative Journalism, un collectif britannique de journalistes. Le Pentagone aurait dépensé cette somme astronomique entre 2006 et 2011 dans le cadre d'une guerre de communication menée en Irak. C'est la célèbre société britannique de communication et de relations publiques Bell Pottinger qui a une réputation sulfureuse. Donc cette société a bénéficié des largesses américaines, 120 millions de dollars par an, pour produire les contenus de ce programme de propagande classé top secret. Un ancien salarié de l'entreprise, Martin Wells, a révélé au Bureau of Investigative Journalism les dessous de cette campagne qui ont été publiés dimanche 2 octobre par le média The Daily Beast et par le journal Sunday Times. Dans le cadre de la partie la plus sensible du programme, la société Bell Pontinger, qui a employé jusqu'à 300 personnes en Irak, aurait également fabriqué de fausses vidéos de propagande signées Al-Qaïda dans l'unique but de piéger et de traquer les personnes qui les auraient visionnées. Si le Pentagone a confirmé avoir eu recours au service de la société Bell Pontinger durant cette période en Irak, le Bureau of Investigative Journalism n'apporte aucune information sur les résultats éventuels de ce pistage. Donc, ces vidéos servaient à pister ceux qui les téléchargeaient et qui les visionnaient sur des CD, par exemple. Ces révélations trouvent un écho particulier aujourd'hui, quelques années après les faits, dans le sens où nombreux sont les experts des mouvances djihadistes qui affirment qu'une part importante du processus de radicalisation individuelle passe justement par le visionnage de vidéos de propagande. Même si, continue France 24 dans cet article, même si nul ne pouvait prévoir l'importance qu'allait prendre ces dernières années la production et la diffusion de tels contenus par des groupes comme l'organisation État islamique, le Pentagone a peut-être, en finançant la production de ces contenus vidéo, indirectement contribué à la promotion d'Al-Qaïda, voire même inspiré des apprentis vidéastes djihadistes. Donc voilà un effet indésirable finalement quand on met le doigt dans ce genre d'engrenage, et on sait bien sûr pour l'avoir lu dans plusieurs médias que le Pentagone finance des rebelles un peu partout au Moyen-Orient et en Syrie en particulier, des rebelles qui sont très très proches, sinon membres de la nébuleuse Al-Qaïda. On va continuer cette fois dans cette portion nouvelle du jour. On parle de Wikileaks qui célébrait ses 10 ans d'existence. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a promis ce matin, mardi, à l'occasion des 10 ans de son organisation, des révélations en rapport avec l'élection présidentielle aux États-Unis, donc des révélations qui vont intervenir avant le scrutin présidentiel du 8 novembre. Tous les documents relatifs aux élections américaines sortiront avant le 8 novembre, a promis Julian Assange lors d'une conférence de presse à Berlin à laquelle il participait par vidéo, lui-même étant confiné, on le sait, dans l'ambassade d'Équateur à Londres en raison de poursuites pour viol et accusations qu'il rejette. Donc, poursuites pour viol en Suède. Nous pensons que ces publications, a dit Julian Assange, seront significatives. Montrent-elles des aspects intéressants des factions au sein du pouvoir aux États-Unis? La réponse est oui, a-t-il dit, refusant cependant de fournir tout autre détail alors que la presse américaine s'attend à voir la candidate démocrate Hillary Clinton au cœur de ces nouvelles révélations. À la veille de l'ouverture de la convention démocrate américaine, fin juillet, on s'en rappellera, Wikileaks avait publié quelques 20 000 courriels internes au sein du Parti démocrate. Certains courriels révélaient un parti pris en faveur d'Hillary Clinton, un parti pris qui favorisait Clinton au détriment de son opposant démocrate, le sénateur Bernie Sanders, vous vous rappelez. Alors, selon Julian Assange, toujours durant cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin à Berlin, Wikileaks est actuellement la cible d'une chasse aux sorcières qui est orchestrée en particulier par Hillary Clinton. C'est une chasse aux sorcières qu'il a comparée à la répression des communistes américains dans les années 1950, une répression qui avait été organisée par le sénateur Joseph McCarthy, pour ceux qui connaissent ce chapitre sombre de l'histoire américaine. Wikileaks, a déclaré Julian Assange, va amplifier modifier les publications pour se défendre de ce qui est une poussée McCarthyste aux États-Unis, en particulier de la part de Hillary Clinton et de ses alliés, car c'est elle qui est la plus exposée actuellement, a dit Julian Assange. Les représentants de l'organisation WikiLeaks ont aussi cité lors de cette conférence de presse des allégations publiées aux États-Unis ces derniers jours qui affirment que Hillary Clinton avait, lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, elle était Secretary of State, donc des allégations voulant que Clinton avait ouvertement souhaité que Julian Assange soit tué par une frappe de drone. Donc voilà, le torchon brûle entre WikiLeaks et Hillary Clinton. Ça va se poursuivre au cours des prochaines semaines, soyez-en assurés. En tout cas, c'est ce que promet WikiLeaks. On termine ce segment nouvelle du jour avec une nouvelle étonnante concernant le talc. Le talc, c'est ce produit, cette poudre qui est employée pour les bébés quand on change les couches ou qui est employée aussi dans certains cosmétiques. Il se trouve que les ressources de talc se trouvent principalement en Afghanistan. C'est un des endroits dans le monde où on trouve le plus de talc. Et il y a des révélations à ce sujet qui sont assez consternantes cette semaine dans les médias. Le talc que nous utilisons pourrait contribuer au financement des talibans et de Daesh. Rien de moins. Selon une enquête du journal Le Monde en France, l'exploitation du talc en Afghanistan permet de financer les talibans et les djihadistes de Daesh tout en alimentant la corruption. Donc c'est un article qui est derrière le mur des abonnés, derrière l'enceinte des abonnés sur le journal Le Monde, mais il en existe des résumés un peu partout sur la toile aujourd'hui. Donc cette nouvelle assez étonnante concernant l'industrie du talc qui rend les djihadistes talibans et les djihadistes de l'État islamique riches, qui leur permet de se financer du côté de l'Afghanistan. On fait une petite pause musicale, on va écouter la formation Les Trois Accords avec un succès de l'année dernière qui s'intitule « J'ai pile ton nom ». On se retrouve pour la revue de presse des éditoriaux dans quelques minutes. 16h44, vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On passe à la revue de presse des éditoriaux. François Cardinal, dans le journal La Presse, se demande ce que Justin Trudeau a en tête en matière d'environnement. Le chroniqueur du journal La Presse n'arrive pas à discerner si le gouvernement Trudeau a un plan en matière d'environnement. Le titre de cet éditorial, c'est « Gaz à effet de serre, j'ai un plan ». François Cardinal demande « Justin Trudeau n'est-il qu'une pâle copie de Stephen Harper ?» Point d'interrogation. Les critiques entendues cette semaine, le premier ministre les a cherchées, indique François Cardinal dans ce titre, dans cet article. Non seulement il a constamment haussé les attentes sur le plan environnemental, il n'a pas encore livré la marchandise. Donc Justin Trudeau suscite l'interrogation, la perplexité de François Cardinal. Il continue « On peut certes sourciller en apprenant que le fédéral approuve le gazoduc Pacific Northwest sans que ce projet s'inscrive dans un quelconque plan de lutte climatique. On peut s'interroger en voyant les libéraux reprendre l'objectif des réductions de gaz à effet de serre des conservateurs, leurs prédécesseurs. Le véritable problème n'est ni le gazoduc Pacific Northwest, ni le manque d'ambition de la cible, prétend François Cardinal. Le problème, c'est l'absence de plan. Une absence qui se fait sentir depuis le début des négociations du protocole de Kyoto, il y a 20 ans, selon l'éditorialiste. Le premier ministre n'a pas chômé depuis la conférence de Paris l'année dernière. Il y a eu la rencontre des premiers ministres à Vancouver. Il y a eu des discussions sur le cadre stratégique, la répartition de l'effort et la tarification du carbone, mais il n'y a toujours pas de plan, déplore l'éditorialiste François Cardinal dans ce papier publié dans le journal La Presse aujourd'hui. On va passer dans les pages du média Ricochet, qui est un média indépendant francophone anglophone, un média pan-canadien. On est du côté francophone aujourd'hui, où l'on a remarqué un article sur la ville de Détroit, qui l'a pas eu facile, comme on dit, au cours des dernières années. Je vous lis quelques passages d'un texte écrit par le journaliste Alexis Rapin. Passer de fleuron industriel à ville fantôme, la capitale américaine de l'automobile a connu une trajectoire économique digne d'un grand 8. Mise KO par la crise de 2008, la ville renaît désormais peu à peu de ses cendres à travers une multitude de petits projets entrepreneurs et communautaire. Aucune ville mieux que Détroit n'incarne à la fois la grandeur et la décadence du rêve américain. La Motown, comme on l'appelle, contraction de Motortown ou ville du moteur, comme on l'appelle souvent, est le lieu de naissance d'Henry Ford, des chaînes de montage et de l'industrie automobile états-unienne. Propulsé dans le courant des années 1910-1920 au rang de fleuron manufacturier du pays, Détroit et ses usines s'imposèrent rapidement en fabrique de l'American Way of Life. Au tournant du millénaire, toutefois, donc il y a une quinzaine d'années, la mondialisation et les politiques néolibérales ont malmené cette monstrueuse cylindrée. Délocalisation et désindustrialisation, oui, ont, à partir de la fin des années 80, arraché à Détroit des centaines de milliers d'emplois, particulièrement dans la classe moyenne ouvrière sur laquelle se basait la prospérité de la région. La crise de 2008, au milieu de ce marasme, est venue porter le coup de grâce à ce colosse déjà chancelant. L'histoire de Détroit, à partir des années 2000, se révèle ainsi être celle d'une lente agonie économique et sociale. Entre 2000 et 2010, le salaire annuel médian dans la Motown et son agglomération passe de 33 000 à 26 000 $. L'espérance de vie, elle, est passée de 78 à 76 ans et dans ce même intervalle, 230 000 habitants, soit 25% de la population locale, ont quitté purement et simplement dans la ville, laissant derrière près de 80 000 bâtiments abandonnés. Le Michigan, selon les données du groupe de recherche Measure of America, devient ainsi le seul État américain à voir son indice global de développement humain régresser. En 2013, la municipalité de Détroit, complètement exsangue, devient la première collectivité américaine de l'histoire à se déclarer en faillite. Les services publics accusent le coup, le temps d'éclairage des lampadaires est réduit par mesure d'économie, une police en grave sous-effectif ne parvient plus qu'à élucider 3 homicides sur 10 dans une des villes les plus violentes d'ailleurs du pays. En juin 2014, 15 000 habitants se voient même couper leur raccordement au réseau d'eau potable de la ville faute d'avoir payé leur facture précédente. La Motown devient tristement célèbre à travers le monde entier en tant que symbole du déclin économique américain. Et la suite de l'article, après cette préambule, cette introduction, c'est une exposition de toutes les manières par lesquelles Détroit est actuellement en renaissance. C'est une ville qui renaît, rapporte cet article de Ricochet.info que je vous encourage à aller lire. Il y a aussi des photos. C'est un beau photo-reportage aussi qui accompagne cet article. On va aller à l'interview à présent. Je vous le disais en ouverture d'émission. On retrouve Nathalie Leduc aujourd'hui qui vient compléter le cycle sur Burning Man 2016 et on referme ce cycle avec une lecture de poèmes qui ont été composés en français sur place à Burning Man dans le désert du Nevada par Nathalie. On va écouter ça dans quelques instants. Restez à l'écoute. Alors voilà, pour cette dernière portion de l'émission, on s'écarte un petit peu des chemins battus. On vous livre en quelque sorte un épilogue de Burning Man 2016 avec Nathalie Leduc, artiste résidente à Victoria. Nathalie, bien sûr, si vous avez été à l'écoute, était venue nous faire la relation de l'édition 2016 de Burning Man. Ça avait été en 2 volumes même il y a quelques jours de cela. Nathalie est de retour et Burning Man, c'est un sujet très fécond. Alors, on y revient. C'est une sorte d'épilogue. Cette fois-ci, ce sont des poèmes que nous apporte Nathalie, des poèmes qui ont été composés durant Burning Man 2016 en plein désert du Nevada. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, merci d'accepter l'invitation. Expliquons un petit peu le procédé d'écriture entourant cette livraison de poèmes.
Oui, ce sont des poèmes qui sont des portraits, hein. Je pense qu'il faut le mentionner. Et ils sont faits sur une machine à écrire qui d'habitude est une machine à écrire électrique, mais ici, elle n'est pas, la machine n'est pas
branchée.
Merci, ouais. J'allais dire le mot en anglais, le chercheur en français. N'est pas branchée dans le courant électrique, mais c'est une bicyclette qui l'a fait marcher. Et d'accord. La personne qui est sur la bicyclette et qui pédale est la personne de qui je fais le portrait.
D'accord. Alors, c'est un petit peu surréaliste. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que ça s'inscrit dans une école de poésie?
Oui, d'accord. Non, en fait, je pense pas. Non.
D'accord. En tout cas, c'est inusité, c'est étonnant. Ouais. Les gens qui étaient au festival de la francophonie de Victoria en mai dernier ont pu goûter à ce procédé d'écriture. Tu avais un stand au festival, tu avais installé ta dactylo, il y avait le vélo également, donc mm-hmm. Tu as livré des portraits aux gens qui passaient au festival. Tu avais une blouse blanche de scientifique, donc c'était vraiment une mise en scène très intéressante. Mm-hmm. Donc tu as refait l'expérience à Burning Man. Oui. Et il faut mentionner à nos auditeurs que les poèmes que tu as produits à l'occasion de Burning Man étaient en français, écrits en français.
Je les ai tous écrits en français.
Et les Américains, m'as-tu dit, ont beaucoup aimé ce petit trait d'originalité.
Oui, d'ailleurs, en fait, je pense qu'en général, les Américains ont cette idée du français comme étant une langue très romantique.
Oui.
Et donc, je les ai fait en français, au début, ils étaient un peu étonnés peut-être. Et puis, quand je leur ai lu le poème à la fin en français.
Oui.
La lecture en français, je pense, a eu plus de succès que ma traduction après en anglais. Là, parce
ah oui.
que ça avait l'air tellement beau, il disait. Oh, c'est, ça a l'air très romantique quand tu le lis en français. Et puis après, bon, en anglais, c'était un peu moins, peut-être un peu moins romantique. Là, mais...
Ils conservaient une copie de leur poème, oui. Et toi aussi.
Oui, ils conservent l'original et moi, je fais une copie carbone.
D'accord. Bon, alors, tu restes vraiment dans l'analogue, comme
oui,
on dit.
C'est, tout à fait.
C'est une démarche analogue.
Et puis, j'ai eu un petit problème à deux reprises. J'ai mis le papier carbone du mauvais côté.
Donc, est-ce que ça a changé les verres du poème?
Non, c'est que ma copie est très pâle.
Ah oui, d'accord.
Donc, okay. Elle était plus difficile dans deux cas à les lire. Là, mais bon, c'est pas grave, je les ai retranscrits rapidement. Puis, c'est assez comique. Ouais.
Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans la lecture de ces poèmes.
D'accord.
Je suis tout oui et nos auditeurs le sont aussi, je l'espère.
OK. Donc, Herod, on apprend que le géant... L'œil cinématographique à l'oreille cassée. Une aventure de Tintin dans le désert de la Roche Noire. D'un climat aride à l'autre, l'œil se déplace au deuxième millénaire dans des véhicules supersoniques d'une technologie ancienne, un tournesol planté dans l'âme. Mais à quoi bon se déplacer quand on a le don d'ubiquité? Alicia. Chaque pays a sa princesse. Princesse du désert, princesse brillante, gracieuse, au cœur planté d'étoilettes généreuses. L'espace d'une semaine, l'espace de poussière, marchant lentement. Au rythme du soleil brûlant, il existe un pays qui vient de trouver sa princesse. Nicole. Apporter au monde les saveurs des émotions, savoir faire passer, savoir passer d'un trou noir à l'autre. Saveur, savoir, jeu de scène, jeu de découverte, faire disparaître le moi, ouverte, ouverte, sa bonté se répand sur le visage des regardés. Tant pis pour les jaloux qui passent à côté du trésor, car la belle, la belle, la belle a des oreilles pour l'univers. Karen. Les genoux de Karen. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Les genoux montent pour redescendre, du surplace qui mènera loin. Les genoux prennent le rythme d'un esprit tranquille, doucement, doucement. La douceur sensible est bonne, pas un mot de trop. La gentillesse pesée, non pesante. Désir de voyage chez les fées excentriques, désir d'en être à sa façon. Digne et doux genou, conscient d'être au monde, le support sur lequel repose la terre. John, une voix de papier sablé à apporter sur une île déserte. Vibration, tonnerre, grognement de pirates, un voyage marin fantastique. Perroquet perché sur sa propre épaule, petite fenêtre, écueil, noyade. Mais c'est le rire, les petites fossettes, le muscle des joues, et cet humour latent, toujours prêt à surgir par cette voix qui révèle la tendresse du monde. Une petite tempête, une pluie rafraîchissante, un œil rapide qui dévore le monde et ses vers, un œil cynique et pourtant attendrissant. Il faudrait tout un voyage pour connaître les recoins de l'océan. Flash. Éponge. Un côté rugueux, la voix, une éponge. L'autre côté lisse, absorbant, gonflant au rythme des rires et des jurons, homme des cavernes modernes, homme de pierre émouvant, mouvant, soulevant, étonnant, éclatant, éclaté, acclamé par des hordes de limaces admiratives. Car son cœur, fou comme de la bip, absorbant, se gonflant d'amour pour chaque petite fourmi que nous sommes, sort en paniquant par ses cheveux de savant fou. Comment exprimer le ceci, le cela, l'aventure faite homme?
Bravo Nathalie. Alors c'est ça fait voyager. J'imagine le visage portrait de souris de ces Américains. Souvent le poème porte et s'intitule par leur prénom.
Oui, hein. Oui, toujours. C'est je mets John, toujours le prénom avant. Oui.
C'est bien. Alors t'as fait des heureux là-bas à Burning Man. Je sens qu'on pourrait continuer comme ça sur Burning Man 2016 pendant plusieurs émissions. On en est déjà à la troisième. Merci pour cet épilogue, cette annexe, si tu veux.
Mais ça m'a fait plaisir.
Qui complète l'interview que tu m'avais accordée sur le festival il y a une dizaine de jours. Alors, j'espère qu'on se retrouvera bientôt au débrief. Merci d'avoir été là.
Ben, ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'était Nathalie Leduc à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est déjà la fin du débrief. Merci de nous avoir accompagnés pour cette heure d'info. On se retrouve demain, même heure, 16h, et en rediffusion le lendemain. Excellente soirée à tous.